Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, le destin tragique d'un footballeur résistant, Rino de la Negra. Nous sommes au début des années 40 et les jeunes parisiens ne rêvent pas encore du maillot bleu du PSG mais du vert de l'étoile rouge. Ici, c'est Saint-Ouen. Ici, c'est le Red Star. Rino de la Negra, jeune recrue du club, est prêt à devenir une étoile du ballon rond. Il deviendra un martyr de la résistance. Et pas de n'importe quelle résistance, non. Celle que mènent les FTP-MOI. Autrement dit, les immigrés communistes, dont on se souvient essentiellement pour la propagande qu'en ont fait les nazis, la célèbre affiche rouge. Eh bien, Rino était de ceux-là, fusillé dans le froid d'un matin de février 1944 avec 23 de ses camarades. On oubliera pourtant ses jeunes exploits de footballeur. On oubliera même jusqu'à l'orthographe de son nom, voire son nom tout court. Mais dans certaines tribunes de stade, de celles qui rêvent d'un autre football que le foot fric, par exemple, sa mémoire est encore chantée par les supporters. Grâce à eux, et au travail de deux historiens, l'histoire de Rino de la Negra peut être désormais racontée et le nom fascinant du groupe manouchian évoqué. Nos invités aujourd'hui, Jean Vigreux, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Bourgogne, et Dimitri Manessis, docteur en histoire et supporter du Red Star, auteur tous les deux de la monographie Rino de la Negra, footballeur et partisan, paru cette année aux éditions Libertalia. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec le journal L'Équipe aujourd'hui et diffusée en direct comme d'habitude. Récit documentaire Bastien Jans, coordination Franck Cognard, réalisation Hélène Bizio.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Le 9 septembre 2015, le président François Hollande est en campagne de promotion de l'Euro de football organisé en France pendant l'été 2016. Pour vanter les vertus sociales du ballon rond, le président qu'on dit connaisseur de foot choisit de rendre visite à l'un des plus vieux clubs de France, créé en 1897 par l'inventeur de la Coupe du Monde, Jules Rimet. Tout le monde en a déjà entendu parler sans vraiment savoir où il est situé, s'il existe encore d'ailleurs. Ce club, c'est le Red Star, le club de Saint-Ouen, dans la banlieue rouge parisienne, devenu beaucoup moins rouge aujourd'hui, son maire est centriste. Avec ses vieilles tribunes à l'anglaise décrépies et la barre d'immeubles HLM qui lui sert de virage sud, le vieux Stade Boer trône au milieu des quartiers ouvriers de Saint-Ouen depuis le début du XXe siècle. Mais en ce début d'année 2015, le Red Star est monté en deuxième division et la Ligue professionnelle refuse d'homologuer son stade pour accueillir les matchs. Trop vétuste. Alors, c'est la mort dans l'âme que les quelques milliers de supporters du club doivent se rendre à Beauvais pour soutenir leur équipe. Devant un parterre de jeunes footballeurs en herbe et au milieu d'un stade boueur qui tombe en ruine, le président Hollande commence son petit numéro de charme.
Le Red Star, il a voulu aussi connaître une nouvelle jeunesse. Il est dommage que le stade n'ait pas suivi cet enthousiasme. Mais je ne doute pas que les élus sauront trouver des solutions pour que le Red Star retrouve le plus vite possible le stade Boer.
Et au milieu de son discours, François Hollande va commettre une petite bourde positive. En évoquant la tribune des ultras, comme on appelle ses supporters un peu plus engagés et bruyants que les autres, il lui donne un nom qui n'a rien d'officiel, la Rino, pour tribune Rino de la Negra. Donc, sans le vouloir, le président de la République vient d'acter une domination pour laquelle les supporters se battent depuis des années avec la mairie de Saint-Ouen. Et en termes de combat, les ultras du Red Star sont des champions. La couleur des maillots, la taille du sponsor, les projets de rénovation du stade. Ces supporters, tendance extrême-gauche, se battent contre tout ce qui ressemble de près ou de loin aux pratiques du foot business. Il n'y a bien que les mauvais résultats de leur équipe qui n'éveillent pas leur colère. Et la figure légendaire du footballeur résistant Rino de la Negra, qui a refait surface au cours des années 2000, est logiquement devenue l'une des icônes de la tribune. Alors, quand l'équipe, faute de résultats, redescend en championnat amateur, la tribune Rino, baptisée ainsi par le président himself, peut s'embraser de nouveau. Boer, Rino, résistance. Dans la foule, le nom de Rino de la Negra apparaît partout, sur les autocollants, les t-shirts, les écharpes et les banderoles. Tu sais qui c'était, Rino ? A-t-on l'habitude de demander aux nouveaux venus dans la tribune ? Un gardien de but, un défenseur, un attaquant? À vrai dire, personne ne sait vraiment quel footballeur il fut. Non, c'est surtout son sacrifice qu'on retient. Le sacrifice de sa vie pour un idéal. Alors, qui était Rino? Eh bien, il était un immigré italien, un ouvrier, un communiste, un résistant, un martyr. Mais quand l'arbitre siffle la fin du match, que la tribune se vide et que le silence se fait dans le vieux Stade Bauer, le visage de Rino Dalla Negra, peint sur les bâches qui ornent la tribune des supporters, flotte doucement dans la nuit, tel un fantôme, toujours aussi énigmatique. Un soir de 2019, à l'Olympique, le bar des supporters qui fait face au Stade Bauer, deux historiens, supporters du Red Star, entament une petite conférence sur l'histoire du résistant. Et là, devant une foule aux yeux embués de larmes, et de bière aussi, ils présentent un document bouleversant, une vieille lettre qu'on croyait perdue qu'ils ont retrouvée. En écoutant les mots qui la composent, les supporters de Red Star sont transportés dans un monde disparu, mais à la fois loin et proche, le monde de Rino, tel qu'il le quitte alors en février 1944. Quelques heures avant d'être fusillé par les Allemands, il écrit cette lettre à son frère. Extrait.
Petit frère, je veux t'envoyer un dernier petit mot pour que tu réconfortes de ton mieux papa et maman. Tu es fort et robuste, et je te sais courageux. C'est pourquoi je ne veux pas de larmes. Je n'avais jamais pensé au mariage. C'est pourquoi les parents ont du chagrin, car j'avais l'intention de finir mes jours avec eux. C'est ton tour. Remonte le moral à tout le monde, et tout finira pour le mieux. Embrasse bien fort ceux que je connaissais. Va chez Tony et faites un banquet, et prenez tous une cuite en pensant à moi. Enfin, fais tout pour le mieux. Je finis en t'embrassant bien fort et courage. Ton grand frère qui t'aime toujours, Rino.
1938, photomaton du prisonnier d'Argenteuil. Rino, 15 ans, cheveux gominés, col roulé qui remonte jusqu'au menton, prend la pose. Il a les traits d'un ange, mais le regard déjà d'un homme mûr. C'est fou ce que ça vieillit le travail à l'usine. Ce jour-là, avec lui, il y a Gabriel et ses frères Tonino et Vittorio. Il y a aussi André, qui a des vues sur Gabi, et la belle Inès, qui a 3 ans de plus et pour qui tout le monde en pince. Surtout Rino. Bref, toute la bande du quartier Mazagrande est réunie. Le centre d'Argenteuil est leur terrain de jeu. Et quand ils ont fini de faire les 400 coups, ils rentrent et prennent un verre au café des Arduini, en plein cœur de la Mazze. Ici, on joue boulé aux cartes. Parfois même, on danse, mais surtout, on cause politique. Le vieux Arduini, qui fut le maire socialiste d'une petite ville d'Émilie-Romagne, en Italie, a tant raconté sur les fascistes qu'ils l'ont chassé du pays. Car vous l'aurez compris, à l'énoncé de leur nom et la prononciation de leur nom et de leur quartier, ces gens sont des immigrés italiens. Pour beaucoup de leurs compatriotes qui ont fui le régime de Mussolini, le quartier Mazagrande d'Argenteuil est devenu un nouveau foyer. Une Little Italy faite de briques et de brocs, des maisons en planches de bois que les nouveaux arrivants construisent eux-mêmes sur des terrains boueux. En tout cas, la flamme antifasciste brûle dans tous les cœurs. Et la voix du PCI, le parti communiste italien, qui se fait entendre. Argenteuil, le bastion du député communiste Gabriel Péri, est dans ces années-là un véritable laboratoire du Front populaire, où prime l'éducation, les loisirs, le sport. Et Rino en est le pur produit. Entré à l'usine Chausson-Danière à 14 ans, il s'épanouit en dehors sur tous les terrains de sport, boxeur, sprinter et surtout, footballeur. Mais si Mazagran apparaît comme un havre de paix, ici plus qu'ailleurs, on connaît les jours sombres. Le bruit des bottes fascistes qui revient et se fait de plus en plus entendre aux frontières françaises. Il est si familier, ici. Un matin de 1938, Rino apprend la nouvelle. Tonino et André, les copains, sont partis en Espagne rejoindre les brigades internationales pour défendre la République espagnole face aux armées du général Franco.
Les alliés les plus efficaces de la République, ce sont ceux-ci. Avocats, tourneurs, étudiants, manœuvres. Ce sont les brigades internationales. Ils ne reçoivent pas de soldes. Ils ne cherchent pas la gloire. Ils sont accourus du monde entier. Ils vont mourir à Madrid.
Madrid, c'est le cœur.
Tonino et André ne sont pas morts à Madrid comme dans le titre du film de Frédéric Rossif dont nous venons d'entendre un extrait, non. Ils reviennent à Argenteuil, mais gravement blessés par des éclats d'obus. Le sens du sacrifice de ses deux meilleurs amis impressionne et force l'admiration du tout jeune Rino. Et pour l'instant, son seul engagement, lui qui n'a même pas sa carte au parti, c'est celui qui le lie à la FSGT, la Fédération Sportive et Gymnique du Travail. Dans l'élan du Front Populaire, cette instance est créée en 1934 de la fusion de différents mouvements sportifs, syndicaux et communistes. Elle devient une institution centrale dans le monde ouvrier. Chaque dimanche, en effet, le stade Henri Barbusse d'Argenteuil est en ébullition, envahi par des hordes d'athlètes ouvriers venus se défier dans les innombrables compétitions organisées par la Fédé. Au sein de la JJSA, même 3J, JJJSA pour Jeunesse Sportive Jean Jaurès d'Argenteuil, le club qui devient sa deuxième maison, Rino forge peu à peu sa légende. 11 secondes au 100 mètres, 5,86 m au saut en longueur, la presse locale s'enthousiasme. Le junior Della s'affirme comme un bel espoir du sport travailliste, écrivent les journaux. Mais c'est sur les terrains de foot, sa véritable passion, que le petit champion d'Argenteuil se fait remarquer. Ailier droit, ultra rapide et fin technicien, Della Negra éclabousse de son talent tous les matchs. C'est sûr, il est destiné à devenir professionnel. Mais on ne peut pas courir plus vite que l'histoire, et le terrain de jeu de Rino va être complètement transformé en quelques mois. Le 23 août 1939, Hitler et Staline dribblent tout le monde en signant un pacte de non-agression qui humilie les diplomaties françaises et anglaises. L'angoisse monte et Édouard Daladier, le président du Conseil des ministres, s'adresse à la nation.
Nous avions engagé avec la Russie, d'accord avec l'Angleterre, des conversations politiques et militaires. Nous avons tout mis en œuvre pour leur succès. Lorsque, renversant brusquement sa politique et sa doctrine, la Russie a signé avec l'Allemagne un pacte qui lui permet de se dérober, les circonstances obscures dans lesquelles ce pacte a été négocié, l'heure à laquelle il a été publié, les termes de ses articles démontrent qu'il augmente les chances d'une agression contre les amis de la France et contre la France elle-même.
Le pacte de non-agression déchaîne la fureur anticommuniste en France. La perspective de la guerre attise les tensions. Le journal nationaliste Le Matin, qui aura son importance dans notre affaire, multiplie les éditos du type « Le bolchevisme russe est un poison et quiconque s'en approche sera empoisonné ». Les mois passent et Rino continue de courir, de dribbler, de marquer des buts fabuleux. Mais la grande histoire, elle aussi, s'accélère. La France déclare la guerre à l'Allemagne nazie en septembre après qu'elle a envahi la Pologne, puis se fait rouler dessus par la Wehrmacht au printemps 40. La Troisième République s'effondre, le régime de Vichy s'installe. Dans les rues de Paris et de sa banlieue, les uniformes allemands sont partout et celui de la police française n'inspire plus aucune confiance. Bientôt, dès l'année 41, ce seront les rafles de juifs et de communistes. Alors, sur la pelouse du Stade Bauer, l'ambiance change. Forcément. La mention de Jean Jaurès a disparu du maillot que porte Rino avec son club d'Argenteuil et la FSGT est purgée de ses cadres communistes placés sous le contrôle de Vichy. Chaque athlète est maintenant obligé de faire le salut nazi avant le début des compétitions. C'est le football défiguré.
Aux événements du football français au Parc des Princes, plus de 30 000 spectateurs garnissent les gradins pour voir le Red Star et les Girondins disputer la Coupe de France zone occupée. Le Red Star est en culotte blanche. Dès le premier quart d'heure, le Bordelais Pruvot bat Darui d'un shot bien placé. Le Red Star domine le plus souvent, mais il est victime de l'inefficacité de son attaque. Par contre, les Bordelais s'imposent par la sûreté de leur défense et les échappées décidées de leurs avants.
Défaite de 1 pour le Red Star en ce printemps 1941. Son attaque est moribonde, il lui faudra bientôt recruter du 109. Enfin, si la compétition perdure. Car le très aristocratique régime de Vichy ne goûte pas vraiment aux joies populaires de ce loisir de masse qu'est le football. Et le sport professionnel est clairement dans le viseur. 23 novembre 1941, Rino a 18 ans. Il se trouve que le journal Le Matin, qui a sombré dans la collaboration, organise sa propre coupe. En finale, Rino, accompagné de son ami Tonino et de tous les coéquipiers de la jeunesse d'Argenteuil, est opposé au Red Star Club de Champigny. Le match est serré, la fin approche sans que personne n'ait marqué. Mais à 3 minutes du terme, Rino reçoit un ballon sur l'aile droite. 1-2 avec Tonino, et voilà le petit génie partir à grandes enjambées vers le but. D'un dribble chaloupé, il mystifie le dernier défenseur et passe à l'avant-centre qui ne manque pas sa cible. But, le JSA est champion. Dans les locaux du Matin, au milieu des journalistes collabos, les jeunes ouvriers immigrés d'Argenteuil peuvent venir chercher leur trophée. Et une ironie dramatique qui perdure dans les mois qui suivent, car ce sont les mêmes journalistes du Matin qui vont suivre de près l'éclosion du talent d'Ella Negra, relatant tous ses exploits avec Argenteuil, puis avec sa nouvelle équipe de Thiers. Automne 42, l'ascension du petit footballeur rencontre un obstacle de taille. Des centaines de milliers de jeunes Français sont réquisitionnés pour le STO, le service de travail obligatoire, invités de force à un long séjour dans les usines allemandes, avec les encouragements bien sûr du vieux maréchal Pétain, qui ne saurait rien refuser à ses alliés allemands.
Voici que de nouvelles épreuves viennent de vous être imposées. Il vous appartient de faire qu'elles soient fécondes. Accueillez-les avec discipline. Soyez attentifs à discerner autour de vous ce qui peut servir à vous perfectionner. Manifestez dans vos gestes, dans vos paroles, par la qualité de votre travail, par votre esprit d'initiative et d'invention, le génie de notre race. Ma pensée ne vous quittera pas sur le chemin et les lieux de votre dépaysement. Faites que je sois fier de vous. Vous trouverez dans l'adversité même le sens et le chemin de la grandeur. Mais sachez, vous gardez des tentations et des chimères. La barbarie communiste, si elle triomphait, ne pourrait que détruire à jamais notre civilisation et notre indépendance nationale.
Cause toujours, le 12 février 1943, Rino ne répond pas à sa convocation. Il est notifié comme réfractaire au STO et recherché dès lors par la police française. Autrement dit, le jeune footballeur devient clandestin.
À la mattina, appena alzata, oh bella ciao, bella ciao, 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 alla mattina, appena alzata, il risaia mi tocca andare. Gli insetti e le zanzare, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e fra gli insetti e le zanzare, un duro lavoro mi tocca. Mamma mia, oh che tormento, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao.
Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via.
sento di morire, e se muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, seppellire là sui montagna, oh bella ciao, bella ciao.
Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Question. Comment passe-t-on d'une vie d'ouvrier de footballeur à une vie de clandestin ? Réponse. Sans changement apparent. Ainsi, durant les mois qui suivent son entrée en clandestinité, Rino continue à aller s'entraîner tous les deux jours et à jouer tous les week-ends sous les yeux de la presse locale et nationale. Sa petite notoriété sportive semble lui servir de couverture. Et de fait, personne ne fait le lien entre le footballeur et le réfractaire au STO, dont le nom est pourtant inscrit sur les registres de la police. Pour se cacher, Rino peut compter sur la solidarité des copains, les coéquipiers du foot, comme les amis de toujours. Souvent, au mépris de toute précaution, eh bien, il se rend à Mazagrande pour voir ses parents et son petit frère. Puis il va dormir chez Tonino et Gabriel. La bande de Mazet se rit alors comme à l'époque. Sauf que le copain André est prisonnier en Allemagne et que la belle Inès ne se montre plus beaucoup au quartier. Disons qu'elle est devenue discrète. Et pour cause, fille de militant antifasciste, elle n'a pas traîné pour s'engager dans la résistance. Dans le secret de son panier qu'elle trimballe dans tout Paris, elle cache des messages et des armes et les transmet sous le manteau à ses contacts du groupe FTP-MOI, ses francs-tireurs, partisans issus de la main-d'œuvre immigrée. Ce réseau communiste, actif depuis le printemps 42, regroupe des Polonais, des Roumains, des Bulgares, des Tchèques, des Hongrois, beaucoup de Juifs, et bien sûr des Italiens, bref, tout ce que la France compte d'immigrés, d'ouvriers, de communistes, prêts à se battre contre l'ennemi. Ils forment une équipe de choc d'une soixantaine de combattants, menant une guérilla sans merci contre les Allemands. À l'hiver 1943, son commandement militaire est confié au poète arménien Missak Manoukian. Dans l'émission « Temps n'emporte l'histoire » sur France Inter, on fait ressurgir les figures de cette armée des ombres.
L'enfant ! On va être repéré. Dégoûté, c'est ça. C'est bon, Celestino. Écoute-le.
Il buvait, il fumait, il riait, il prenait du bon temps. Mais il était avec une femme. J'ai pas pu.
T'as eu raison, Marcel. T'inquiète pas. On l'aura une prochaine fois.
Eux n'ont pas ce genre de scrupules. Même les policiers français, tous les jours, ils arrêtent des femmes, des enfants. Et ton père ?
Mais tu crois que j'y pense pas ? Chaque fois que j'en croise un, j'ai envie de le descendre. Et des fois, j'y arrive. Sans scrupule, comme tu dis. Mais je peux pas tuer une femme. Tu comprends ça ?
On est tous d'accord avec toi. Tous. On n'est pas des assassins. Et on veut pas leur ressembler. C'est aussi ça, leur résister.
Question. Comment passe-t-on de la clandestinité à la lutte armée ? Réponse, avec beaucoup de courage et sans laisser de traces. Rino Della Negra intègre ainsi les FTP dans le secret le plus absolu. Seul Tonino, son meilleur ami, est mis au courant. Tous les autres apprendront la double vie de Rino qu'un an plus tard, dans les journaux, quand le jeune homme sera arrêté. Un jour, Rino rencontre Flora Vanti Terzi, responsable des FTP d'Argenteuil. Le lendemain, il devient Gilbert Royer, distribuant des tracts pour réveiller les consciences. Un jour, sur le terrain, Rino, le footballeur, fait une échappée sur l'aile droite, posant tous les défenseurs sur leurs fesses. Le lendemain, c'est Gilles Royer qui court à toute vitesse, et cette fois pour rejoindre la bicyclette cachée à quelques dizaines de mètres de là, laissant derrière lui les corps de trois soldats allemands sur le sol de la rue des Bûchettes, à Argenteuil. Un jour, sur le terrain, il balance une frappe magique en pleine lucarne. Le lendemain, déguisé en militant fasciste, il jette une bombe en plein milieu d'une réception en grande pompe au siège parisien du parti fasciste italien. Joyeux anniversaire, 8 morts, 27 blessés. Nous sommes maintenant à l'été 43 et Rino agit quasiment tous les jours. Le footballeur est devenu un soldat ultra entraîné. Il a tué maintes fois et s'attend à l'être à tout moment. Ses capacités physiques exceptionnelles l'ont fait remarquer par Alfredo Terrani, commandant du 3e détachement de la FTP-MOI, celui des Italiens. Rino devient alors Robin. Et comme dans un film hollywoodien, le hasard fait qu'on lui associe Inès Sacchetti comme agent de liaison. Les deux enfants de Mazagrande se retrouvent alors avec émotion et crainte, forcément, vu la nature de leur engagement, comme s'en souvient très bien Inès lors d'un hommage rendu à Rino en 2004.
On se connaissait depuis longtemps et quand on nous a présenté de Paris, eh ben, on s'est trouvé qu'on se connaissait et c'était pas bien. On ne savait plus quoi faire et c'était fait. On a dit, bon, ben, on marche comme ça. Si tu te laisses prendre, eh ben, je sais que tu parleras pas, ni moi non plus, mais enlevant la torture, on ne sait pas ce qu'on pouvait faire. Mais on a marché quand même.
En juillet, Rino et Inès sont envoyés se mettre au vert sur la côte normande. Quelques jours hors du temps, loin du sang, loin de la peur. Quelques jours pour rêver de jours meilleurs et s'aimer fougueusement dans l'énergie du désespoir. Le mois d'août arrive, Rino et Inès sont rappelés à Paris. Les actions des FTP s'intensifient, les missions sont de plus en plus nombreuses et dangereuses. En tout, ce groupe de résistants aura perpétré près de 230 actions contre les Allemands en un an et demi. Mais peut-être trop sûrs de leur force, les FTP ne voient pas les sombres silhouettes qui les suivent et qui guettent les moindres de leurs faits et gestes. La police française, via sa brigade spéciale de traque des communistes, la BS2, a commencé voilà des mois un gigantesque travail de filature. Le réseau dirigé par Manoukian est cerné de toutes parts. Or, ce n'est pas la police qui vient frapper à la porte d'Orino, mais bien le Red Star, oui, le grand Red Star, qui vient de gagner enfin la Coupe de France de la zone occupée. Dans le journal Lotto, l'ancêtre de l'équipe, on s'enthousiasme pour le recrutement du club de Saint-Ouen, un peu trop tardif malheureusement.
Le Red Star sera dangereux. Parmi les recrues, nous pouvons compter sur l'excellent portier briviste Bertagnol. Et avec Della Negra, qui opérait la dernière saison à Thiers, nous pensons tenir un avant-centre de grande valeur.
À l'été 43, le facétieux gouvernement de Fichy a décidé de démanteler les clubs professionnels et d'inventer sa propre compétition qui sied mieux à ses fantasmes d'ancien régime. Ainsi, la France du football est divisée en 16 grands comtés. Il y a Paris Capitale, Bordeaux-Gironde ou encore Lyon-Lyonnais. Les vieux clubs pro sont reversés dans des compétitions régionales, tandis que les meilleurs joueurs rejoignent les équipes inventées par Vichy. Pour l'anecdote, c'est Lance Artois, qui n'avait plus rien de sang et or, qui gagna le championnat cette année-là. Rino, lui, ne sera jamais professionnel. Il revêt tout de même le maillot du Red Star, le temps de quelques matchs et d'un automne trop fugace. Comme dans son rêve, la foule compacte du stade de Saint-Ouen se lève comme un seul homme quand il démarre, bille en tête sur son côté droit, oui. Avec Rino dans ses rangs, le peuple de l'étoile rouge peut rêver à des jours meilleurs. Le 12 novembre 1943, Rino retrouve six camarades du 3e détachement des FTP devant un garage à vélo à Vincennes. Il est 7h du matin, quand l'équipée se disperse avec des bécanes volées quelques jours plus tôt. Mais planqué tout près, la BS2 repère chaque visage et suit minutieusement le déroulé de l'opération. L'objectif des FTP, un convoi de fond allemand, probablement encore un pillage, rue Lafayette, à 13h. Rino et Robert Wittschitz forment le groupe d'attaque. Les autres assurent leurs arrières. Au métro Cadet, Robert et Rino récupèrent les armes avant de se poster à l'endroit précis où doivent passer les deux convoyeurs. Deux hommes et une mallette s'engagent sur un passage clouté. La main de Rino ne tremble pas quand il s'approche d'eux. L'un des Allemands s'effondre, mais l'autre s'enfuit avec la sacoche pleine de billets. Rino et Robert tentent de le pourchasser, mais une cohorte de policiers français, bientôt rejointe par des troupes allemandes, débarque aussitôt et les balles fusent. des cris partout, impassants et touchés. Rino tente de s'enfuir. Au milieu des Parisiens médusés, le jeune Italien se met alors à courir le plus vite qu'il peut, et on sait qu'il peut courir vite. Mais c'est sa dernière foulée, sa dernière percée, sa dernière course. Car soudain, une balle vient le frapper dans le bas du dos. Rino se réfugie dans un hall d'immeuble, s'écroule, incapable de se relever. C'en est fini pour lui, il est arrêté. En 4 jours, ce sont 24 combattants des FTP et MOI, dont le chef militaire Misak Manoukian, qui sont arrêtés, emprisonnés, torturés. Un coup de filet, longtemps préparé pour faire tomber ce qui restera dans l'histoire, comme le groupe Manoukian. 3 mois plus tard, le 11 février 1944, les actualités cinématographiques montrent pour la première fois au public français les visages de ces terroristes, étrangers et communistes, comme les appelle le régime de Vichy.
Près de Chalon-sur-Saône, un attentat fait 18 morts, 32 blessés graves. À Grenoble, une explosion détruit des quartiers entiers, 1500 blessés. À Bourg-en-Bresse, les boutiques sont saccagées le jour des obsèques du général de Benet. Telles sont les œuvres de terroristes étrangers et presque tous juifs. Arméniens, juifs polonais, espagnols rouges, juifs polonais, encore un juif polonais.
Rino n'apparaît pas dans le reportage, pas plus qu'il n'apparaîtra sur les photos publiées dans la presse, ni sur la fameuse affiche rouge, cette affiche qui sera placardée sur les murs des villes françaises quelques jours plus tard, cette affiche où il est question d'abominables terroristes enfin arrêtés. Il est probable que la propagande nazie, déterminée à faire du procès des FTP MOI, une entreprise de communication de grande ampleur, n'ait pas trouvé ces traits fins et juvéniles très pertinents pour illustrer ce qu'ils avaient à illustrer. La terreur, dont les nazis sont pourtant les maîtres incontestés. Le 15 février 1944, à l'hôtel Continental, la parodie de procès des 24 FTP MOI commence. Et le verdict ne laisse planer aucun doute. En ce début d'année 44, les cours martiales allemandes ont envoyé à la mort près de 600 résistants. Rino et ses camarades n'y échapperont pas. Les journaux français, eux, reçoivent tous les mêmes éléments de langage à retranscrire dans leurs articles, n'empêchant pas certains d'y aller avec gourmandise pour s'horrifier des crimes de ces dangereux métèques que sont les résistants, ceux-là. Rino, lui, est présenté comme un jeune naïf qui s'est engagé par erreur dans l'armée clandestine des FTP MOI pour fuir le STO et continuer à jouer au foot, bref, un irresponsable. Le 21 février 1944, les journalistes du Matin inscrivent une dernière fois dans leur colonne le nom de Rino Della Negra.
Presque tous les assassins font montre d'une bestiale inconscience. 24 accusés, 19 étrangers. Encore faut-il compter parmi les 5 ressortissants français des hommes comme Misak Manoukian d'origine turque, Robert Witschitz d'origine polonaise et Della Negra d'origine italienne. Si les uns, les juifs, ont déclaré sans embâge avoir tué par haine raciale et désir de vengeance, les autres n'ont trouvé à leur enrôlement dans l'armée secrète que des raisons dont la puérilité dépasse l'entendement.
Le même jour, en début d'après-midi, Rino est transporté avec ses camarades au Mont-Valérien. Il est attaché à un poteau, les yeux bandés par un morceau de tissu taché du sang de ses compagnons tombés avant lui. À 15h29, précisément, le petit prince de Bauer meurt sous le feu allemand. Quelques jours plus tard, dans le quartier Mazagran d'Argenteuil, les parents de la Negra reçoivent un colis, la veste trouée de balles de leur fils et une lettre, les derniers mots du footballeur résistant.
« Je regrette beaucoup de ne jamais vous avoir dit ce que je faisais, mais il le fallait. Faites comme si j'étais au front. Soyez tous aussi courageux que moi. Je termine en vous souhaitant à tous un meilleur avenir et vous embrasse tous, 1 million de fois. Courage et confiance. Votre fils chéri et qui vous a aimé jusqu'à la dernière minute de sa vie. La plus grande preuve d'amour, c'est de donner sa vie pour ce qu'on aime. Soyez aussi courageux que moi. Rino. »
Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans. Vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes, menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Il cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les mornes matins en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement « Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. » Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini plus tard en arrivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma Mélinée, oh mon amour, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent. 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. 23 étrangers et nos frères pourtant. 23 amoureux de vivre à en mourir. 23 qui criaient la France en s'abattant.
Affaire sensible sur France Inter, aujourd'hui le destin de Rino Della Negra, footballeur devenu résistant, dont nous allons parler avec deux invités. Jean Vigreux, bonjour.
Bonjour.
Professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Bourgogne et Dimitri Manessis, bonjour.
Bonjour.
Docteur en histoire, auteur tous les deux de Rino Della Negra, footballeur et partisan, livre paru cette année aux éditions Libertalia. Alors comme vous avez tous les deux la même expertise sur cette histoire, je ne vais pas désigner l'un ou l'autre pour répondre, répond qui veut à mes questions. Le Red Star, voici la première, apparaît comme un club singulier dans le paysage du foot français. Mais alors, en quoi la mémoire de Rino est-elle un enjeu primordial pour les supporters du club aujourd'hui? Alors peut-être... J'avais dit que je ne désignerais personne, je vais désigner Dimitri pour le coup.
Si vous le souhaitez, permettez-moi d'abord de vous remercier, non seulement pour l'invitation, mais pour la qualité du travail de Bastien Jean et de toute l'équipe, de cette mise en récit qui était absolument superbe et émouvante. Et on est très fiers de voir comment notre travail a été réapproprié et retravaillé. Et c'était vraiment très beau. Merci.
Merci de la part, eh ben merci de la part de toute l'équipe. Voilà.
Le Red Star, c'est vrai que Rino incarne, Rino est un symbole d'énormément de valeurs qui sont chères aux supporters du Red Star. Supporters néophyte comme supporter plus ancien, des valeurs d'antifascisme, des valeurs d'internationalisme, et puis des valeurs liées aussi à l'histoire ouvrière de la ville et du territoire, du département. On parlait de la banlieue rouge, vous l'évoquiez. C'est tout ça, finalement, qu'incarne Rino. C'est à la fois la jeunesse, le sport et le talent footballistique, et puis bien évidemment, toute une série de combats.
Jean Véreux, quelles sont les sources auxquelles vous avez eu accès pour nourrir votre recherche? En d'autres mots, quelles traces laisse la vie d'un jeune ouvrier, aspirant, footballeur, professionnel, clandestin et résistant?
Alors c'est difficile de retracer la jeunesse de quelqu'un, 20 ans, c'est rien 20 ans à l'échelle humaine, mais l'importance des archives ouvertes maintenant de la Seconde Guerre mondiale, et effectivement on a bénéficié, vous évoquiez tout à l'heure le président Hollande et le Red Star, c'est lui qui a ouvert les archives de la Seconde Guerre mondiale, et on a eu accès aux archives nationales, à des archives qui jusqu'alors n'étaient pas ouvertes, celles concernant l'intérieur, la justice, tous les actes de résistance qui amenaient à un sabotage ou qui amenaient à effectivement des assassinats, on va dire, en tout cas des combats de lutte armée, ont donné lieu à des enquêtes de police, à des enquêtes de justice, à des enquêtes de gendarmerie. Et on a pu avoir accès à tout ça, ce qui nous a permis de retrouver, bien sûr, toutes les actions que Rino de la Negra avait faites. Les archives aussi de la FTP MOI, des FTP MOI, qui sont à Champigny-sur-Marne. Donc, de ce point de vue-là, plein d'archives. La logique de l'administration de la preuve a été importante. Celle des fameuses brigades spéciales, qui maintenant sont consultables au Pré Saint-Gervais. Et sans oublier des archives privées. Et ça, c'est ce qui a été important pour nous dans notre quête de sources, c'est de renouer avec la famille, de renouer avec la belle-sœur de Rino de la Negra. Et cette rencontre s'est faite grâce à Dimitri, il était sur la région parisienne à ce moment-là, puisqu'on a eu la période du Covid au moment où on faisait ça, donc c'était un peu plus difficile pour se déplacer. Et il a pu récupérer toutes les archives qu'avait constitué la maman. Ouais. Pour son fils.
Donc, et ça, c'est important. Bien sûr. Mais comment est née l'idée, comment a germé l'idée d'écrire un livre, de faire ce travail-là entre vous deux?
Cette idée, elle est partie d'un objet qui est symbolique de l'univers et de la culture du foot, à savoir une écharpe de supporter tous les amateurs de football ont chez eux, au moins une de leur équipe. Et j'achète, lors de la saison 2017-2018, une très belle écharpe blanche avec des écritures noires inscrites Tribune Rino de la Negra. Et cette écharpe, je la porte lors d'un séminaire à la fac de Dijon où Jean Vigreux, qui était alors mon directeur de thèse, m'interroge sur cette écharpe, sur sa signification. Et très vite, il me propose que lui et moi, on travaille ensemble sur ce beau sujet qui avait été assez peu exploré. Et pour la petite anecdote, lorsque j'achète cette écharpe aux supporters du Red Star, ceux-ci, à chaque acheteur potentiel, prennent du temps, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, pour expliquer, en peu de mots bien sûr, mais pour expliquer qui était Rino, pour que chaque acheteur soit bien conscient du nom qu'il porte autour des épaules.
Et quels étaient les rapports du régime de Vichy avec le sport et le football en particulier, Jean Vigreux?
Alors les rapports, vous l'avez dit tout à l'heure dans votre récit, on est contre le football professionnel, ça c'est clair. On revient au régionalisme, aux provinces, aux vieilles provinces. La vision d'ancien régime, la France des clochers. Oui, des clochers. Véritablement, ce retour à la terre qui ne ment pas, à des choses enracinées. D'ailleurs, très peu de métèques dans ces équipes que l'on présente, je mets des guillemets, parce que ils sont présentés comme tels. Et d'ailleurs, la presse va présenter Rino de la Negra non pas comme français, alors qu'il a été naturalisé en 1938, et que ça, dans la famille, c'était important, cette naturalisation française, et ils étaient très heureux d'avoir les papiers, et c'est vraiment présent dans ces archives privées. Eh bien non, on le présente comme un Italien, on le présente comme un étranger, etc. Alors, sur le football, ça ne veut pas dire qu'il est supprimé pendant la période, mais c'est plus le football professionnel, c'est autre chose, ça dénature complètement ce qui s'était construit depuis toute l'entre-deux-guerres, et même l'héritage de Rimet, de ce point de vue-là, est complètement remis en cause.
Jules Rimet, qui a inventé la Coupe du Monde.
Qui a inventé la Coupe du Monde, et puis qui est le fondateur du Red Star.
D'ailleurs la Coupe du Monde, l'Euro et le Ballon d'Or sont des inventions françaises. On va laisser une petite place à Billie Eilish, pendant 2 minutes et demie, qui nous chante The Thirsty, et on revient bien sûr à notre histoire.
Sometimes you look the same, just like you did before the accident. When you're staring into space, it's hard to believe you don't remember it. Woke up in the ambulance, you pieced it all together on the drive. what I told you, even then you look so pretty in a hospital bed. I remember you said you were scared, and so was I. In a standstill on the five, thought it was unusual, the early traffic. Usually I don't panic, I just wanted to be on time. When I saw the ambulances on the shoulder, I didn't even think of pulling over. I pieced it all together late that night, and I know you don't remember calling me, but I told you even then you look so pretty in a hospital bed. I remember you said you were scared, and so was I. What if it happened to you on a different day, on a bridge where there wasn't a rail in the way, or a neighborhood street where the little kids play, or the Angeles crest in the snow or the rain? What if you weren't alone, there were kids in the car? What if you were remote, no one knows where you are? If you changed anything, would you not have survived? You're alive, you're alive, you're alive.
Affaires sensibles sur France Inter.
Dites-moi, messieurs, deux historiens, je rappelle vos noms quand même, Jean Vigreux et Dimitri Manessis, vous avez écrit un livre à quatre mains sur cette histoire des footballeurs de la Negra. Comment expliquer qu'il parvient à continuer à jouer au football et à venir voir ses parents tout en étant clandestin? Qui veut répondre?
Alors c'est la grande énigme. C'est grande énigme parce que effectivement, il prend des risques insensés. Mais ces risques insensés payent parce qu'il n'est pas repéré par les brigades spéciales. Ce qui nous a étonnés tous les deux quand on est allé aux archives du Pré-Saint-Gervais, l'affiche concernant Rino de la Negra, il y a juste le 12 novembre, au moment où il tombe, l'affaire où ce que vous avez raconté, l'attaque de convoyeurs de fonds et de vol d'une bicyclette. C'est la seule chose qui est dans sa fiche des brigades spéciales. Alors que tous les autres, on avait toutes les actions qu'ils avaient pu mener, et on a pu recouper, grâce aux matricules de Rino dans les FTP, MOI, l'ensemble des actions qu'il avait faites, plus d'une quinzaine au total. Eh bien, non, tellement c'est gros, en quelque sorte, ça passe. Et ça nous a étonnés. Parce qu'il jouait, effectivement, au Red Star, entre septembre, octobre, novembre 1943, essentiellement des matchs de Coupe de France, mais il a joué.
Est-ce que c'est peut-être parce que, d'ailleurs on le voit à la fin, il est considéré après comme une sorte d'irresponsable qui pour jouer au foot, s'est mis dans ce groupe-là. Peut-être qu'il n'était pas pris au sérieux, c'est peut-être la raison pour laquelle il était peut-être moins surveillé que les autres, je ne sais pas.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces éléments de langage qu'on attribue à Rino, qu'on veut faire coller à Rino comme étant celui d'un jeune naïf et disons-le d'un jeune paumé, ne correspondent évidemment absolument pas à la réalité de son parcours.
Bien sûr, mais si eux pensaient ça, ça peut expliquer qu'il n'est peut-être pas traqué comme d'autres.
En tout cas, c'est un paradoxe magnifique de voir qu'on peut briller sur la pelouse de Bauer et ne pas se faire repérer alors qu'on est réfractaire au STO et qu'en plus, on est un partisan armé.
On va revenir un instant, si vous voulez bien, sur l'action hors du commun des FTP MOI à Paris, avec une salve de questions. Comment s'est formé ce groupe? Quel était son mot d'ordre? Comment s'organiser ses actions? Et comment recrutait-il? Qui veut répondre à ces quatre questions? Allez-y,
je vais me lancer, mais vraiment très rapidement. Oui. La MOI, c'est une structure main-d'œuvre immigrée, donc, qui existe au sein de la galaxie communiste déjà avant la guerre. Et elle va se reconstituer dès l'année 40 dans la clandestinité, se doter de ses propres groupes de combat, organisés comme avant la guerre en groupes de langues. Donc, des groupes de combat italiens, juifs yiddishophones, espagnols, etc.
Arménien,
bien sûr. Et en fait, ces unités vont rassembler des profils assez variés. avec des hommes qui approchent de la quarantaine et qui sont des vétérans des combats antifascistes d'Europe de l'Est ou des vétérans des brigades internationales en Espagne, très important.
Oui, bien sûr.
Et puis des jeunes, comme Rino, qui ont parfois 18, 19, 20 ans, qui n'ont pas forcément d'expérience militante, mais comme on essaye de le montrer dans le livre, qui ont grandi dans un bain d'antifascisme et dans une culture politique à travers les loisirs, à travers les copains, à travers le foot et la FSGT qui les a profondément imprégnés et qui les conduit progressivement à faire le choix des armes.
On pourrait presque dire qu'ils ont été socialisés pendant le Front populaire. C'est-à-dire pendant toute la période de la ligne antifasciste importante des années 30, et puis aussi de ce moment festif, des loisirs, ce que vous avez évoqué également sur le sport populaire et le sens qu'a le sport populaire avec la FSGT à l'époque.
Alors, on va passer à un élément important de cette histoire, l'affiche rouge. Donc l'affiche rouge, c'est une opération de propagande de Vichy et des Allemands, où l'on voit le visage de 10 résistants fusillés. Et bien sûr, on dit que ce sont d'abominables terroristes. On voit en bas de l'affiche les victimes de ces résistants. Donc c'est fait pour effrayer la population. Et s'il y a un recto, il y a aussi un verso. Et sur le verso est écrit, alors je vous lis ce qui est écrit, ça donne vraiment l'atmosphère de l'époque. Et ça, c'est écrit, voici la preuve, ça c'est le titre. Si des Français pillent, volent, sabotent et tuent, dit l'affiche, ce sont toujours des étrangers qui les commandent. Ce sont toujours des chômeurs et des criminels professionnels qui exécutent. Ce sont toujours des juifs qui les inspirent. C'est l'armée du crime contre la France. Le banditisme n'est pas l'expression du patriotisme blessé, c'est le complot étranger contre la vie des Français et contre la souveraineté de la France. C'est le complot de l'anti-France, c'est le rêve mondial du sadisme juif. Étranglons-le avant qu'il nous étrangle, nous, nos femmes et nos enfants. Bon, la violence est inouïe, hein, la violence de ces mots-là.
Oui, la violence est inouïe, mais elle s'inscrit véritablement dans la culture politique nazie, fascisante et de Vichy, sur le complot judéo-bolchevique.
C'est ça
que l'on met en avant. En plus, ça vient cumuler avec un autre complot, le judéo-maçonnisme de la Révolution française. C'est le rejet de l'acquis de la Révolution. Bref, on fait du neuf avec de l'ancien pour Vichy. Et là, dans la propagande allemande, on reprend véritablement les canons du judéo-bolchevisme. C'est ça qui est à l'œuvre.
Tout à fait. Alors, comment expliquer maintenant l'absence de Rino sur cette célèbre affiche rouge, Dimitri Malessis?
Il y a plusieurs hypothèses. Celle où, bien évidemment, son physique avantageux ne correspondrait pas, justement, au canon de la propagande raciste nazie sur le complot.
Il faisait pas assez peur, quoi, en gros.
C'est ça, et il était beaucoup trop bel homme pour incarner, justement, ces bandits et ces criminels, ces terroristes, pour reprendre les mots de l'époque. Mm-hmm. L'autre hypothèse totalement opposé, c'est qu'il aurait été trop torturé, trop tabassé, trop abîmé pour figurer sur des photos. Et enfin, la dernière hypothèse qui nous paraît à nous la plus plausible, c'est que comme vous l'avez rappelé, Rino est blessé. Et donc il y a un décalage de temporalité. Ses camarades, lorsqu'ils sont arrêtés, sont emmenés directement en prison, d'abord au dépôt, puis à la prison de Fresnes. Rino, lui, il est d'abord conduit à l'hôpital. Il est soigné et torturé dans le même temps, d'ailleurs, mais il est d'abord emmené à l'hôpital, ce qui conduit à un petit décalage et à donc l'absence de photographie de Rino à ce moment-là.
Bien, un dernier mot?
Non, il n'y a pas de photo anthropométrique, d'accord. Bien spécial. Voilà.
Bien, Jean Vigreux et Dimitri Malessis, il me reste à vous remercier. Alors, je signale que dans ce studio, un jeune stagiaire du service de communication est venu assister à l'émission. Il est tout jeune, et lui, là, cette mémoire du Red Star, il connaît ce club, il connaît l'histoire. Vous voyez que les jeunes sont sensibilisés aussi à tout cela, et c'est tant mieux. Merci messieurs.
Merci. À vous.
Au revoir.
Merci à vous.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le destin de Rino Della Negra, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Ludovic Asselot.